Oui, Seigneur, comme Alain l'a dit dans sa prière, ta parole est une parole de vie. Alors fais-nous vivre par ta parole. Encore une fois, Seigneur, oui, que ta parole soit source de vie pour nous. Que ton Esprit Saint anime cette parole. Et que nous puissions grandir dans la foi. Mais surtout, Seigneur, grandir dans l'amour pour toi. Amen. Le texte de l'évangile de ce jour se trouve dans Luc, chapitre 9. Je n'ai gardé que parmi toutes les lectures proposées, que le texte de l'évangile. Alors, Luc, chapitre 9, les versets 18 à 24. On ira même un peu plus loin, jusqu'au 25. Luc 9, 18 à 25. Un jour que Jésus priait à l'écart et que ses disciples étaient avec lui, il leur posa cette question. Les foules, qui disent-elles que je suis? Ils répondirent, Jean-Baptiste, d'autres, Élie, d'autres, un des anciens prophètes ressuscités. « Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Pierre répondit, « Le Christ de Dieu. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même ? Voilà, beaucoup de choses intéressantes dans ce texte, beaucoup trop de choses pour un seul dimanche. Alors j'ai sélectionné un aspect, une partie seulement, les versets 23 et 24. Donc je vais vous les relire. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Ces paroles sont des paroles d'évangile, puisqu'elles se trouvent dans l'évangile de Luc. L'évangile, vous savez ce que ça veut dire ? La bonne nouvelle. Ben, je vous la redis, la bonne nouvelle. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et puis un peu plus loin, quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Bon, heureusement, quiconque perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Ben, excusez-moi, mais pour une bonne nouvelle, on en a entendu des meilleurs. Hein ? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que dit Jésus ? Qu'il renonce à lui-même, celui qui veut me suivre, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Et puis imaginez que, c'est pas imaginer d'ailleurs, c'est en début d'année prochaine certainement, nous allons lancer une campagne d'évangélisation. Alors vous nous voyez en train de proclamer cette parole. Renoncez à vous-même, chargez-vous de votre croix. Ah ben dites donc, on va les remplir nos temples. Hein. Ça va avoir du succès, hein, je vous garantis. Hein. Voilà, c'est un peu l'impression que j'ai eue en lisant ces deux versets. Je me suis dit, mais est-ce que Jésus n'était pas dans un jour sombre ? Bon, d'ailleurs, il vient d'annoncer qu'il doit souffrir, qu'il soit mis à mort par les principaux sacrificateurs, par les scribes, etc. Peut-être était-il sombre ? Bon, plus sérieusement, je pense que effectivement, ces versets, cette parole de Jésus fait partie de ces paroles difficiles, comme il y en a quelques-unes dans l'Évangile, qui sont d'ailleurs pratiquement toujours des paroles de Jésus, des paroles qu'on se dépêche d'envelopper dans un petit peu de coton. On dit oui, il faut interpréter, il faut prendre au deuxième degré, au troisième. Parce que ça bouscule, ça fait peur. Et en effet, elles sont difficiles. Donc ce matin, si vous pensez que je vais vous expliquer, bon, je sais pas, je vais tout vous expliquer, ça sera nickel, carré, vous allez tout comprendre, vous risquez d'être déçu parce que je pense que des paroles comme celle-ci, on n'a jamais la fin. C'est des paroles qui interrogent, et je pense qu'on avance, en s'interrogeant, mais on n'a pas forcément la réponse absolue. Hein. J'ai bien aimé la prière de Daniel tout à l'heure, qui disait c'est, l'important c'est d'entrer, hein, c'est pas de comprendre, c'est ce que tu as dit. J'ai trouvé ça, j'ai dit tiens, voilà, ça c'est ce qu'il faut pour la parole du jour. Ce n'est pas forcément de comprendre, d'avoir tout pigé de façon mathématique, A plus B, carré, etc. Clac, c'est hein, non. C'est d'entrer dans la réflexion. Et je vous dis ça, c'est un témoignage, parce que moi, je suis rentré, et puis pendant plusieurs jours, j'ai remâché ces paroles, qui au début étaient très nébuleuses pour moi, et puis elles le sont toujours, mais la différence, c'est qu'entre deux, je pense qu'il y a quelque chose qui a travaillé dans mon cœur. Alors je voudrais vous donner la piste, et puis à vous, dans la semaine ou dans les jours qui viennent, à vous de remâcher tout ça dans votre cœur. Oui, ces paroles difficiles, oui, il y en a d'autres, hein, je vous en cite une, vous connaissez bien. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi la joue gauche. Vous comprenez ça, vous? Moi, je comprends pas. Moi, j'aurais bricolé le verset à ma sauce, c'est-à-dire, si quelqu'un me frappe sur la joue droite, il a intérêt à faire gaffe à sa joue gauche. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est... Bon, peut-être un jour, il faudra qu'on prêche ce verset aussi. Alors, on va quand même essayer de travailler un petit peu tout ça. Dans le fond, au début, le verset 23, il commence bien. Parce que Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi. Alors, comme ça, en première lecture, on se dit, ça veut dire, si quelqu'un veut me suivre. Non, parce que ça serait un petit peu absurde, puisque le verset se termine par... qu'il me suive. Alors, en concentré, ça voudrait dire, si quelqu'un veut me suivre, qu'il me suive. C'est un petit peu tarte. Hein. Bon. Donc, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il me suive. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, une promesse merveilleuse. Jésus nous offre, nous tend le flambeau. De dire, à vous de reprendre le flambeau, le relais. Hein. C'est-à-dire que moi, je vais partir. Et puis, si vous le voulez... obligé. Si vous le voulez, vous pouvez venir après moi, autrement dit, reprendre ma mission, reprendre mon travail, reprendre l'évangile, etc., etc. Alors, ça impressionne, hein, parce que se mettre dans les traces de Jésus, c'est toujours impressionnant, mais en même temps, c'est une merveilleuse promesse, parce que vous imaginez la confiance que Jésus nous fait en disant, vous pouvez venir après moi si vous le souhaitez. Bon, donc, effectivement, ça commence bien. Ensuite, ça se gâte un petit peu. Qu'il renonce à lui-même. Là, ça commence à sentir un petit peu le cramer. Qu'il renonce à lui-même. Alors, c'est la première épreuve dans ce texte. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? J'ai pas pu m'empêcher de faire une relation avec la dernière prédication, c'était à Pentecôte, où, rappelez-vous, on avait vu que par le don du Saint-Esprit, Dieu fait de nous de nouvelles créatures, des êtres nouveaux. Il a aussi préparé une nouvelle terre et de nouveaux cieux, nous dit la Bible. Mais là, c'est pour plus tard. Et alors, justement, la grosse difficulté, on avait vu la dernière fois, enfin, Pentecôte, la grosse difficulté pour nous, c'est d'être des créatures nouvelles, mais condamnées, entre guillemets, à vivre dans un monde qui est issu de l'ancienne création et en habitant dans un corps qui est lui aussi de l'ancienne création. Et alors, vous voyez, toute la contradiction, c'est que Jésus nous invite à être ces nouvelles créatures, mais en étant en permanence sollicité, tenté par tout ce que nous offre le monde, qui n'est pas toujours joli, mais qui est bien tentant. Donc toujours soumis à ces tentations, des désirs qui naissent en nous, parce que nous sommes de cette vieille nature qui a été corrompue. Alors attention, la création de Dieu était une merveille. Au départ, elle était parfaite, mais nous savons qu'elle a été entachée, salie, gâtée, corrompue par le péché de l'homme. Alors voilà la difficulté d'être sur cette terre, d'être appelé à être, oui, une créature nouvelle, au sens de l'Évangile, et de devoir faire avec toutes ces tentations, ces sollicitations du monde pécheur. Si je cherchais un exemple, je me dis que finalement c'est toujours Jésus le meilleur exemple. Comment a-t-il vécu cette chose-là? Regardez par exemple donc au début de son ministère, lorsqu'il est envoyé dans le désert pour y être tenté, nous dit l'Évangile. Il a un corps d'homme, le même que vous et moi. Il est à ce moment-là de nature totalement humaine. Attention, c'est pas un dieu qui se déguise en homme. On est bien d'accord. Et puis le diable fait appel à tout ce qui relève des tentations de la chair. D'abord, Jésus a faim, il est resté 40 jours à manger trois bricoles, trois fois rien. Et il lui dit, regarde, ces pierres, tu as juste ça à faire pour faire du pain avec. La tentation est énorme. Mais vous voyez, c'est un appel du corps. Et là, à ce moment-là, Jésus certainement était très très tenté. Un peu plus tard, il l'amène au sommet du temple, il dit... Tu peux te jeter, montre à tous que tu es béni de Dieu et qu'il est écrit, donc si tu crois à la parole de Dieu, il est écrit que avant que tu ne tombes, avant que tu te fasses mal, les anges te porteront. Bon. Encore une grosse tentation, c'est la tentation du paraître, de la gloire. Voilà. Et puis là, le diable en rajoute encore une couche au niveau de l'orgueil, en sollicitant l'orgueil de Jésus, en lui disant, regarde, si tu te prosternes devant moi, je te donne tout, tout, tout est à toi. Alors ça, c'est la soif du pouvoir, ça aussi c'est puissant chez l'homme, extrêmement puissant. On le voit chez nos politiques, regardez comme ils se cramponnent au pouvoir, c'est quelque chose d'incroyable. Alors comment Jésus résiste-t-il à cette tentation? Donc intrinsèquement, comment renonce-t-il à lui-même? Parce que je vous rappelle, on est dans cette petite partie de ce petit verset. Comment est-ce que Jésus renonce à lui-même? Eh bien, en recentrant tout sur Dieu. Oui, il a faim, oui, il a soif de pouvoir, comme tout le monde, on a tous soif de pouvoir, de gloire, c'est agréable, des choses très bien. Mais Jésus dit, non, pas moi, moi, de côté. Dieu a dit, Dieu. Donc, oui, j'ai faim, mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, il vivra aussi des paroles de Dieu. Il recentre tout sur Dieu. Donc, renoncer à lui, à soi-même, vous voyez, on a déjà une petite piste, ça serait d'arrêter, une fois pour toutes, de se mettre au centre. Moi, je suis au centre, je suis mon propre Dieu. Non, c'est terminé. Je mets Dieu au centre de ma vie, et puis moi, je suis à côté, autour, j'existe, attention, mais c'est Dieu qui est au centre. Renoncer à soi-même. Alors, bien sûr, il s'agit aussi de renoncer au péché, c'est clair. Mais j'ai déjà eu l'occasion de le dire plusieurs fois, il n'y a pas que les mauvaises choses auxquelles il faut renoncer, il y a aussi les bonnes, dans le sens où de bonnes choses qui font partie de la création de Dieu, qui sont bonnes, peuvent aussi nous amener à ce qu'on pourrait appeler, alors là, il manque de termes, mais je dirais une passion. Vous voyez, des gens qui sont passionnés pour un tas de trucs, pas forcément des trucs répréhensibles, des choses inavouables ou coupables. Je vous prends un exemple, on peut être passionné par, par exemple, justement, la beauté de la nature. Il y a des gens qui sont passionnés par les fleurs, mais vraiment passionnés, mordicus. Alors on se dit, à premier abord, on dit, mais c'est merveilleux, parce qu'il s'émerveille sur la création de Dieu, qui c'est vrai, est fabuleuse, est fantastique, il se régale de... Oui, mais attention, ils en arrivent à un tel point que ils adorent la création au lieu d'adorer le Créateur. Vous voyez, ça peut, il faut faire attention. On peut aller très loin dans les passions. Et en général, chez nous, les passions, chez l'être humain, eh bien, ça prend de la place. En tout cas, ça prend la place de Dieu. Bon, avançons un petit peu dans le verset. Jésus complète, après la virgule, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Alors, c'est encore plus difficile. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Eh bien, là aussi, il faudrait prendre Jésus en exemple, hein, parce qu'en matière de croix, je crois que il s'y connaît, si je puis dire, il montre l'exemple. Pourquoi se charger de sa croix? Alors j'ai réfléchi en pensant surtout à Jésus. Je me suis dit, mais dans le fond, nous savons que Jésus a été chargé de tout le péché du monde. Et à ce titre, c'est dit dans l'Évangile, hein, je n'invente rien, il a été maudit. C'est un scandale. Jésus, lui qui n'avait jamais péché. Jésus a été maudit, dites-vous bien, une fois pour toutes, que quand il est monté sur la croix, il était le péché fait chair presque. Il a été maudit. Est-ce que Jésus est allé clouer le péché sur la croix puis il est allé se promener? Non. Il a fallu que toute sa personne soit crucifiée sur ce bois maudit pour que la mort soit vaincue, le péché soit vaincu, pour qu'il ait la victoire. Alors, dans le même ordre d'idée, je me suis dit pourquoi? Pourquoi nous échapperions à cette règle, c'est-à-dire qu'on renoncerait à nous-mêmes, ok, on renonce au péché, donc on vient le déposer au pied de la croix, on le confesse, mais on ne s'engage pas plus. Je pense qu'il y a un engagement de tout notre être. Jésus nous demande véritablement un engagement de tout notre être. Alors attention, il ne s'agit pas de prendre les choses systématiquement au pied de la lettre, vous savez que chaque année, au moment le Vendredi Saint, un peu partout dans le monde, en particulier, je crois, en Amérique du Sud, vous savez, on fait beaucoup de processions, un tas de choses comme ça. Et puis, il y a des gars, ils se font crucifier pendant 10 minutes, ils ne vont pas jusqu'au bout, ils ne vont pas jusqu'à la mort. Hein, et puis, pas avec les clous, ils se font entacher, quoi. Mais bon, alors on pourrait dire, ben oui, ils se chargent de leur croix, ils appliquent la parole. Pas du tout. Pas du tout. D'abord, ça sert à rien parce que ça n'ajoute rien à leur salut. Et alors, peut-être justement, dans ce sens, c'est une sorte de blasphème parce que souffrir volontairement, c'est certainement penser que les souffrances de Jésus ne sont pas tout à fait suffisantes pour notre salut. Il faut aussi qu'on le mérite un petit peu. Ah oui, ça fait rire, mais combien de gens recherchent la contrition et la... Quel malheur. Et en même temps, ils font complètement fausse route parce que, je le répète, le sacrifice de Jésus est parfait. On n'a plus qu'à l'accepter. Ça, c'est difficile. Mais c'est comme ça. Bon, donc, se charger de sa croix, pour le coup, oui, c'est au deuxième degré. Penser à Jésus et qui s'est engagé... corps et âme, c'est le cas de le dire, hein, dans la totalité de sa personne, et en faire autant. Je reprends un peu dans l'ensemble. Il y a des paraboles qui peuvent nous... d'autres paroles de Jésus dans l'Évangile qui peuvent également nous éclairer sur tout cela. J'ai repensé, vous voyez, à cette rencontre de Jésus avec le jeune homme riche. Bon, vous connaissez l'histoire, le gars il vient, il dit « qu'est-ce que je dois faire pour hériter du royaume de Dieu ?» Et Jésus, il le titille un peu parce qu'il lui dit « ben, tu connais la loi, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, etc. etc. » Et alors le gars dit « mais ça, je pratique tout ça depuis ma tendre enfance, je n'ai jamais failli. » Et puis Jésus lui dit « bon, ben, il te manque une chose. » Pourquoi ? Parce que Jésus a compris qu'il y a une passion chez lui, qui prend la place de Dieu, c'est l'argent. Mais, alors, bien sûr, on se dit, ben voilà, la richesse, c'est quelque chose à laquelle il doit renoncer, C'est vrai. Y a une chose quand même bizarre, c'est que j'avais jamais remarqué, j'ai relu le texte, j'avais jamais remarqué qu'à la fin, bon, les disciples sont étonnés quand Jésus dit qu'il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Et là, les disciples posent une question. Ils ne disent pas, mais quel est le riche alors qui peut rentrer dans le royaume de Dieu? Ils disent, qui peut entrer dans le royaume de Dieu? Ça vous a pas marqué, ça? Parce que Jésus parle des riches. Hein. Il dit, vous, les riches, eh ben, ça va être très difficile pour eux, parce que l'argent, c'est tellement puissant comme... comme attraction, que quand on en a, qu'on ne veut pas le lâcher, que pour entrer dans le royaume des yeux, ça veut dire. Mais alors, qui peut être sauvé? Je dis, mais ils n'ont rien compris, les disciples, par les riches. Qui? Eh bien, je pense que par ce détail, on peut comprendre que nous sommes tous riches de quelque chose. Alors, ce brave gars, c'était riche financièrement, c'était de l'argent, qu'il avait des grands biens, il avait beaucoup de biens. Bon. Et il fallait vraiment complètement casser pour lui. La seule solution, c'était de se séparer complètement. C'était vraiment la technique, ce qu'on appelle la dinde froide. Hein. C'est très dur, mais c'était la seule solution. Et il a raté le coche, nous dit le texte, puisqu'il est reparti triste parce qu'il avait de grands biens. C'était trop dur pour lui. Nous sommes tous riches de quelque chose. Et cette richesse... Je répète, encore une fois, ce n'est pas forcément une richesse de choses méprisables ou de nature pécheresse, mais cette richesse, il faut la lâcher, il faut s'en séparer. Renoncer à soi-même, porter sa croix. Et puis si je continue, perdre sa vie. Parce que renoncer à soi-même, porter sa croix, bah, quelque part, c'est la logique, vous voyez, tout ça se tient, hein, c'est perdre sa vie. Mais attention, perdre sa vie à cause de Jésus. Il ne s'agit pas de se suicider. Perdre sa vie à cause de Jésus. Perdre ce qui fait notre personne humaine. Perdre nos passions. Perdre ce à quoi on tient. Et parfois, je le répète encore, je ne le dirai jamais assez, c'est parfois des bonnes choses. Mais elles nous tiennent parce qu'on croit posséder ces choses. Non, c'est elles qui nous possèdent. Très important, Jésus dit bien, à cause de moi. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. J'insiste parce que je me hérisse à chaque fois que j'entends, en parlant des chrétiens persécutés dans le monde, telle personne est morte pour Jésus. Personne ne meurt pour Jésus, c'est Jésus qui meurt pour nous, hein, je vous rappelle, hein, c'est lui qui est mort pour nous. Par contre, ces gens qui sont de véritables martyrs et qui sont admirables dans leur résistance, dans leur foi, malgré les persécutions, parfois ils meurent, en tout cas ils sont persécutés à cause de Jésus. Ça fait toute la différence. Hein. Donc là j'insiste, ils ne meurent pas pour Jésus, mais à cause de Jésus. Eh bien, à cause de Jésus, je dois renoncer à ma vie. Est-ce que le Seigneur veut que nous soyons malheureux? Nous a-t-il créé pour que nous soyons malheureux? Je ne le crois pas. Au contraire, il nous a créé pour être heureux. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le véritable bonheur, là, il nous propose dans cette formule. C'est pour ça que tout à l'heure, vous voyez, j'ai fait un petit peu l'âne en disant voilà, la bonne nouvelle, elle n'est pas vraiment bonne. Si, elle est bonne. Si, elle est bonne. Elle est excellente. Parce qu'en renonçant à notre vie d'être humain, l'humain issu de la vieille création, sali par le péché. En renonçant à cette vie-là, alors en accédant à la vie de nouvelle créature que nous propose Jésus, là nous avons le bonheur. Mais voilà, à chacun devant les tentations, devant les besoins, les désirs. Et je préfère même dire les besoins, parce que les désirs sont un peu coupables. Mais les besoins... Parler de Jésus qui avait faim, il voyait des pierres, et le diable lui dit « Transforme-les en pain !» C'est puissant, vous savez, on sait que dans les camps de concentration, les gars qui avaient faim, ils n'avaient pas mangé depuis des mois et des mois, ils mangeaient des bricoles, ils étaient prêts à se battre et se tuer pour un bout de pain rassis. On a vu ça dans les camps de concentration, c'est puissant. Comment faire pour arriver à renoncer à cette vie-là, avec toutes les tentations qui, je le répète, sont extrêmement puissantes? Saint-Esprit. Pas d'autre solution. Appel au Saint-Esprit. Il y a, pour ce qui est de mourir, de perdre sa vie, il y a une autre parole de Jésus que je trouve vraiment qui peut nous aider. C'est cette parabole du grain de blé. Et Jésus dit, si ce grain en terre ne meurt pas, jamais il ne produira de fruits. Si Jésus n'était pas mort, mais mort de chez mort, pas un simulacre de mort, hein, si Jésus n'était pas mort sur cette croix, où serait la victoire? Aussi, il y aurait une victoire, celle de Satan, hein, c'est clair. Et le monde était fichu, là, fichu. Apprendre à mourir. Alors là, on arrive à cette fameuse expression qu'on peut trouver pas tout à fait appropriée, mais il n'y en a pas d'autre, c'est mourir à soi-même. Alors, c'est vrai que c'est une expression qui n'est pas dans la Bible. Mourir à soi-même. Mais elle veut quand même dire ce qu'elle veut dire. Renoncer à sa vie, mourir, faire mourir la vie de l'être ancien qui est en nous, hein, de la vieille création qui est appelée à disparaître, de façon à être pleinement la nouvelle créature que Jésus nous demande d'être. Je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose d'assez surprenant en matière médicale. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste, mais j'avais entendu une émission qui disait que le cancer, qui est un fléau, on est tous concernés, on connaît tous des gens, le cancer, c'est quelque chose de très curieux, parce que finalement, c'est quoi? C'est une prolifération de cellules. Vous savez que toutes les cellules de notre corps se renouvellent. Et le cancer, justement, c'est des cellules qui refusent de mourir. Alors elles se mettent à proliférer de façon anarchique. Alors, je vous l'explique très mal parce que je ne suis pas dans la médecine. Hein. Mais j'avais été frappé de dire, c'est un comble. C'est un comble, parce que cette maladie qui amène à la mort, hein, bien sûr, très souvent, malheureusement, elle part d'un concept de refus de la mort. Ces cellules se cramponnent à la vie et elles entraînent des tumeurs. Bon, voilà. Alors je me suis dit, mais est-ce qu'on n'a pas eu, si Jésus était parmi nous aujourd'hui, nous raconterait peut-être cette parabole du cancer, hein, de dire, vous voyez, si les cellules refusent de mourir, eh bien, ça mène à la mort. Or, par contre, un corps sain, c'est celui qui a des cellules qui acceptent de se renouveler, donc de disparaître, de mourir. Voilà, je m'excuse de vous avoir livré un peu tout ça en vrac. À vous de trier, de recomposer le puzzle, et d'essayer de comprendre ce que Jésus veut nous dire ici, avec renoncer à sa vie, se charger chaque jour de sa croix, et puis de ne pas chercher à sauver sa vie, et de réaliser que lorsque nous la perdons à cause de lui, et là nous la gagnons. Amen.